Donc on commence. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc alhamdulillah rabbil alamin. On va faire aujourd'hui un petit rappel pour, en même temps que ce soit une motivation pour les jeunes et les enfants pour qu'ils puissent continuer dans leur apprentissage et les efforts qu'ils font dans le fait de vouloir acquérir la connaissance. La connaissance qui est la plus importante pour les musulmans en premier, c'est d'apprendre l'arabe, parce que l'arabe c'est la langue du Coran, c'est la langue de la sunna, la langue du hadith, et aussi également l'apprentissage de la religion, parce que c'est par l'apprentissage de notre religion qu'on est capable d'adorer Allah Azza wa Jal, qu'on est capable de mettre en pratique ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Et le serviteur qui est savant et qui connaît, il est beaucoup plus fort dans sa foi et dans sa pratique que celui qui est ignorant. Le serviteur qui est ignorant, il ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, le verset innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. C'est-à-dire c'est seulement les savants parmi les serviteurs qui ont vraiment la crainte d'Allah Azza wa Jal. Parce que si quelqu'un est ignorant, comment il va savoir ce qu'il doit craindre? Comment il doit savoir ce qu'il doit faire? Comment il doit savoir ce qu'il doit délaisser et ce qu'il doit s'abstenir de faire? Si tu es ignorant, tu ne peux pas savoir. Si quelqu'un ne sait pas que le porc c'est haram, est-ce qu'il va manger le porc? S'il ne sait pas, si quelqu'un ne lui a pas enseigné le porc c'est haram, est-ce qu'il va le manger ou non? C'est ça, je vous dis, s'il ne le sait pas, est-ce qu'il va manger le porc ou il ne va pas le manger? Il va le manger. Pourquoi il va le manger? Parce qu'il est ignorant. Si quelqu'un ne sait pas que la salat, elle est obligatoire, est-ce qu'il va faire la salat ou il ne va pas la faire? Il ne va pas la faire parce qu'il est ignorant. Il n'y a personne qui lui a appris. Si la personne ne sait pas comment faire le wudu, est-ce qu'elle va être capable de faire le wudu? Non. Donc, ça veut dire qu'il faut que la personne apprenne. Il faut que la personne étudie. Il faut que la personne acquiert cette science pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal correctement et pour pouvoir savoir justement les choses qu'elle doit faire et les choses dont elle doit s'abstenir de faire. Et c'est par cette connaissance-là, lorsque cette connaissance-là, elle est mise en pratique, eh bien, ça veut dire que le serviteur, l'être humain, il va s'élever. Il va s'élever. Alhamdulillah. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Yarfa'illah, alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il élève parmi vous, ou d'entre vous, les croyants en degré. Allah Azza wa Jal, il élève les croyants en degré, au paradis, dans la récompense. Mais les savants, ceux qui ont la science, il les élève des degrés encore plus élevés. Ça dit que les croyants, mais qui ont la science en plus de la foi, ils n'ont pas seulement la foi, ils ont la foi et ils ont la science en plus. Donc Allah Azza wa Jal les élève encore plus haut dans les degrés du paradis. D'accord? Donc la science, c'est quelque chose qui est très très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. » La quête de la science, c'est une obligation pour tous les musulmans, garçons ou filles, hommes ou femmes. Donc vous devez tous profiter donc de cette opportunité-là pour apprendre votre religion, essayer de comprendre votre religion. Et quand vous êtes jeune, eh bien vous avez plus de temps libre, vous avez moins de préoccupations, vous avez moins de soucis. Vous n'avez pas de responsabilité et en même temps, vous avez une mémoire qui est fraîche. quand les enfants sont jeunes, ils ont une mémoire qui est fraîche. Tout ce qu'ils vont apprendre pendant qu'ils sont petits, ça va rester, Inch'Allah, avec eux jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux. Ils vont avoir cette connaissance-là toute leur vie. C'est pourquoi c'est très important de commencer l'apprentissage pendant que vous êtes petit, pendant que vous êtes jeune, et de faire beaucoup d'efforts maintenant pour apprendre votre religion, parce que plus tard, vous allez être occupé. Vous allez être de plus en plus occupé dans votre vie. Plus vous allez vieillir, plus vous allez avoir du travail, plus vous allez avoir des responsabilités, et le temps que vous allez avoir pour apprendre, il va diminuer. Vous allez avoir moins de temps. Donc, profitez maintenant, pendant que vous êtes jeune. Peut-être que vous dites, « Ah, mais c'est long, ah, c'est fatigant, ah, il y a beaucoup de... Hein, on veut s'amuser, on veut jouer. » Oui, il y a un temps pour jouer, mais il y a un temps aussi pour apprendre. Il y a un temps pour élever sa compréhension et sa connaissance. Et si vous négligez ça, hein, si vous négligez l'apprentissage pendant que vous êtes jeune, eh bien, attends un instant. Hein? Je vais te donner la parole après. Si vous négligez ça, eh bien, vous allez regretter ça plus tard. Plus tard, vous allez dire, « Oh, mais si, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, pourquoi je n'ai pas fait des efforts? Pourquoi, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de temps, j'avais beaucoup d'énergie? Pourquoi je n'ai pas profité de la science? Hein? Pourquoi j'ai laissé le temps passer sans profiter de yani, apprendre le Coran, apprendre les hadiths, apprendre les règles de la religion, les piliers de l'islam, les piliers de la foi, hein? Comment mettre en pratique l'adoration d'Allah Azzawajal, hein? Comment se purifier, comment faire la salat, comment faire le ramadan, le jeûne et tout. Hein? Plus tard, tu vas regretter ça. Et regardez des gens aujourd'hui qui sont parfois arrivés à un âge avancé. Et quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas appris. Peut-être que leurs parents ne les avaient pas amenés à la mosquée pour apprendre. Alors plus tard, ils regrettent. Et même parfois, ils sont ils reprochent ça à leurs parents. Ils vont dire, mais pourquoi mes parents, ils n'ont pas fait les efforts pour m'amener à apprendre hein? Et si vous regardez les parents des grands savants de l'islam, hein, les parents des grands savants comme l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres parmi les grands imams, vous savez que certains d'entre eux, ils étaient orphelins. Ils étaient orphelins. Leur papa était mort pendant qu'ils étaient petits. Mais leur mère, hein, la mère de ces imams-là, c'était des femmes très, très intelligentes et très fortes. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles les amenaient à la mosquée. Elles les amenaient aux savants pour qu'ils s'assoient avec les savants pour apprendre l'islam, apprendre le Coran, apprendre les hadiths. Et donc, à cause des efforts de ces femmes hein, qui éduquaient ces enfants-là, et qui les amenait vers les hommes de science et vers les savants, ces enfants-là, plus tard, sont devenus des savants de l'islam. Ils ont défendu la religion, ils ont propagé la science, ils ont été une cause pour que beaucoup de musulmans puissent apprendre. Aujourd'hui, on a la sunna, on a les sciences, tout ce qu'on a, ça nous a été transmis par ces grands savants-là. Et c'est à cause de l'effort de ces parents, hein, qui ont compris l'importance, surtout dans cette société dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes dans une société qui est noyée par toutes sortes d'idéologies matérialistes et qui ne pense que à la dunya, à la vie d'ici-bas. Ils ne croient pas qu'après la mort, il y a un jugement, qu'après la mort, il y a une résurrection hein, et que chacun va avoir des comptes à rendre devant Allah au jour dernier. Ils ne pensent pas à ça. Et toi, tu es entouré de cette société-là. Si tu vas dans des écoles publiques, ils ne vont pas t'apprendre qui est Allah, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment adorer Allah, hein? Comment te rapprocher de lui, comment te préparer pour le jugement. Ils ne vont pas t'enseigner ça, eux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont perdus, ils n'ont pas la connaissance de ça. Ils sont ignorants, eux aussi. Donc toi, si tu vas dans ces écoles et que tu es entouré de ces individus-là, même peut-être c'est ton professeur qui n'est pas musulman, le directeur de l'école qui n'est pas musulman, tous les gens dans cet environnement-là qui ne connaissent pas Allah, qui ne connaissent pas l'islam, qui sont perdus en fait, qui sont ignorants. Donc, toi, tu dois faire attention pour ne pas te laisser influencer par cet environnement-là. Ne pas adopter les mauvaises manières, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements de ceux qui t'entourent, qui n'ont pas la connaissance de la religion musulmane. Eux, ils peuvent se permettre d'agir d'une façon qui n'est pas correcte et ils pensent que c'est normal, ils pensent que c'est correct, ils pensent que c'est acceptable. Mais nous, nous sommes des musulmans. Donc, nous, on sait qu'on n'a pas le droit d'agir de n'importe quelle façon. On n'a pas le droit de dire n'importe quel mauvais mot, de parler mal, de dire des insultes, de dénigrer les gens. Eux, ils le font parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne éducation. Ils n'ont pas compris la vraie signification du bon comportement. Tandis que nous, les musulmans, Allah Azzawajal, il nous a envoyé le Coran par l'intermédiaire de Djibril pour donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous enseigner la bonne croyance, le tawhid d'Allah Azzawajal, la bonne pratique et l'adoration d'Allah seul, de s'écarter du shirk et de tout ce qui t'égare du droit chemin, et d'avoir également un bon comportement, d'être poli, d'être bien éduqué. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahaba parlaient de lui, il disait « Ma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas quelqu'un qui insulte. Il n'était pas quelqu'un qui maudit. Il n'était pas quelqu'un qui était vulgaire ou qui était grossier. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait uniquement la politesse et le respect, le beau langage, la belle expression. Hein? Et il a encouragé les musulmans à s'aimer les uns les autres, à être bons les uns avec les autres, à ne pas se frapper, pas frapper les autres, pas insulter les autres, pas faire du tort aux autres, pas dénigrer les autres. Allah Azza wa Jal, il dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum. » Oh, vous les croyants, qu'un groupe d'entre vous ne se raille pas de l'autre. Ça dit que toi, tu es un musulman, tu as ton frère qui est musulman, tu ne dois pas te moquer de lui. Peut-être que celui dont tu te moques est meilleur que toi. Hein? Donc ça, c'est très important. Des fois, il y a des musulmans, par exemple, qui se moquent d'autres musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils disent, « Ah, lui, il est de telle façon. » Ou il est gros. Ou il est petit. Ou il a telle couleur. Hein? Ou telle origine. Ça, c'est interdit en islam. En islam, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de discrimination qui est permise. Un musulman, il ne doit pas se moquer d'un autre musulman à cause de la couleur de sa peau, à cause de son apparence. Non. On doit aimer tous les autres musulmans, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient turcs, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient n'importe quelle couleur. On est tous des frères. Allah Azzawajal dit dans le Coran, « Innama al-mu'minuna ikhwa. » Les croyants sont des frères, peu importe d'où tu viens. Tu viens de l'Afrique, tu viens de l'Afrique de l'Ouest, hein? Tu viens de l'Afrique du Nord, tu viens de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, peu importe. Tu viens de l'Europe, tu viens de l'Asie, tu es un musulman, ton frère, hein? Vous êtes tous des frères. On est tous des frères les uns des autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Al-Muslim akhul muslim ». Al-Muslim, akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. La yadlimu. Il ne lui fait pas d'injustice. Wala yakhzulu. Il ne va pas le délaisser ou l'abandonner. Wala yahqiru. Il ne va pas le mépriser. Wala yusallimu. Il ne va pas non plus le dénoncer ou l'abandonner. Toutes ces choses-là, c'est très, très important. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Il suffit comme mal pour un musulman qu'il dénigre son frère, qu'il méprise son frère. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après les questions, d'accord? Parce que si on commence à faire des questions, ça ne va pas finir. D'accord? Donc, c'est très important. Moi, j'ai préparé un petit rappel pour vous. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Là, c'était juste une introduction. Mais il y a une chose que je veux vous expliquer en même temps avant de commencer. Inch'Allah, je ne vais pas faire ça trop long parce que je ne veux pas vous endormir. Hein? Mais Inch'Allah, juste avant de continuer, juste pour que vous sachiez que nous, les musulmans, on a un idéal qui est très élevé. On a une aspiration qui est très haute pour vous et pour nous-mêmes. Hein? On essaie d'atteindre l'excellence. Et l'excellence, c'est quelque chose qui ne peut jamais être atteint réellement. L'être humain, il est imparfait. L'être humain, il a des fautes, il a des manquements. L'être humain, il fait des péchés. Allah Azzawajal l'a créé comme ça. Mais il y a toujours la possibilité de se corriger, de se repentir, de demander pardon à Allah, d'essayer de devenir meilleur. Donc, on a un idéal. Et nous, on n'a pas atteint cet idéal-là, mais on essaie d'y arriver. C'est pourquoi les frères qui organisent cette école le dimanche avec vous, ils ne sont pas parfaits aussi. Les frères qui sont responsables de ça, ils ne sont pas parfaits. On a tous nos limites, on a tous nos manquements, mais on essaie de faire notre possible. Et c'est vrai que on a beaucoup de travail à faire, on a beaucoup de choses à faire pour essayer de s'améliorer, de rendre le programme meilleur, d'essayer de faire en sorte que les élèves qui viennent puissent avancer plus et plus haut et plus rapidement. Et on est loin de notre idéal, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on possède. D'accord? Donc, on demande en même temps aux parents et aux enfants d'être patients et d'être indulgents avec nous et de nous aider à nous améliorer. Il y a plusieurs façons que vous pouvez faire, plusieurs moyens par lesquels vous pouvez nous aider à nous améliorer, c'est en nous donnant le bon conseil. Ça veut dire que vous nous faites part de certains de vos points de vue ou de vos opinions ou de vos remarques, de vos observations pour nous aider à nous améliorer dans notre travail. Donnez le bon conseil, faites des suggestions, faites des reproches si vous avez des reproches, mais bien entendu avec politesse, avec gentillesse, pour essayer de nous aider à avancer. Et on espère qu'avec le temps et avec l'expérience, avec les années, Inch'Allah, on va devenir meilleur et on va devenir plus fort. Et les enfants vont pouvoir avancer plus. D'accord? Inch'Allah ta'ala. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous mentionner premièrement? C'est que Allah Azza wa Jal, il a choisi pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes. Et il a choisi en particulier les compagnons, les sahaba, parmi les meilleurs hommes qui vivaient, pour être les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, il a choisi donc ces hommes-là, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les sahaba. Il les a éduqués avec l'enseignement du Coran, l'enseignement de la sunna, et toutes les règles de la religion, et il les a élevés. Et on a vu apparaître parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des grands hommes, parmi les hommes de science, parmi les hommes qui, par exemple, ont toutes sortes de différentes aptitudes. Tout le monde est différent. Il y a parmi les sahabas certains qui sont plus forts dans la science, certains qui sont plus forts dans... Tu as hâte de manger ça, hein? Ça s'en vient, Inch'Allah. Sabran, patience, ça s'en vient, Inch'Allah. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a éduqués, les sahaba, et on a vu sortir parmi eux des gens, parmi les meilleurs des hommes. Allah a été satisfait d'eux. Allah dit dans le Coran, « لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ » Et il dit dans plusieurs versets, « رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » Il est satisfait, il a été satisfait des sahaba, et Allah est satisfait, et les sahaba sont satisfaits de lui. Yani, imaginez que Allah, il dit à ton sujet qu'il est satisfait. Est-ce que tu n'aurais pas aimé ça? Tu aimerais que Allah soit satisfait de toi. Et tout le monde, même chacun d'entre nous, on souhaiterait tous pouvoir avoir ça comme témoignage, de savoir que Allah est satisfait de nous. Mais Allah Azzawajal, il a été satisfait de qui? Des sahaba. Et il a dit par la suite, « وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ » C'est-à-dire que si tu veux faire partie de ceux pour lesquels Allah est satisfait, ou desquels Allah est satisfait, tu dois suivre les sahaba, suivre l'exemple des sahaba. Parce que les sahaba sont ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le mieux. Il n'y a personne parmi les hommes qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam mieux que les sahaba, radiyallahu anhum. Et c'est pourquoi, si nous on veut avoir cet agrément et que Allah soit satisfait de nous, eh bien il faut suivre leur exemple. Et parmi les sahaba, il y en a un en particulier qui s'appelle Abu Darda. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là, Abu Darda? Non? D'accord. Abu Darda, c'est un parmi les sahaba. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son sujet qu'il dit Abu Darda, « Hakimu hadhihi l'umma ».« Hakimu hadhihi l'umma » Abu Darda. C'est-à-dire que le sage de cette umma, c'est Abu Darda. Abu Darda, c'est un compagnon, et Abu Darda, c'est son surnom. On appelle ça en arabe la kunya. Kunya, c'est un nom qui est précédé par Abu pour l'homme, et, ou bien Umm pour les femmes. Et tout le monde, tous les musulmans doivent avoir une kunya. Ma kunya, c'est Abu Hamad. Suleyman, Abu Hamad, le père de Hamad. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa kunya, c'était, vous connaissez la kunya du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Qasim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa kunya, c'était Abu al-Qasim. Omar ibn al-Khattab, sa kunya, c'était Abu Hafs. Et la kunya de Ali ibn Abi Talib, c'était Abu Turab. Donc, et la Aïcha, radiyallahu anha, sa kunya, c'était Umm Abdillah. Donc, il y a plusieurs, et tous les musulmans, ils doivent avoir une kunya. Vous-même, vous aussi, même quand vous êtes des enfants, vous devez essayer de trouver une kunya. Plus tard, Inch'Allah, on en reparlera de ça. C'est quoi? Bon, on va, comme je dis, vous avez le temps d'y penser et de choisir une bonne kunya pour vous-même. Donc, Abu Darda, c'était quoi son nom? Si sa kunya, c'était Abu Darda, c'était quoi son vrai prénom? Premièrement, il est de la tribu des Ansar. Vous savez qui sont les Ansar? Non? Les Ansar sont les habitants de Médine. Vous savez qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, il vivait à Mecca et il était persécuté par les mouchriquins de Quraysh. Il le traitait mal, il l'insultait, il frappait les musulmans, il maltraitait les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il croyait en Allah. Alors, ils ont tout fait pour faire du tort aux musulmans et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a des gens de Médine qui sont venus à la Mecque, à Mecca. Ils ont entendu qu'il y a un prophète qui est venu. Et ils ont cru en lui et ils ont accepté l'islam. Et ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous, on accepte l'islam, vous pouvez venir chez nous et on va vous protéger, on va vous aider. C'est pourquoi on a appelé les gens de Médine, les Ansar, parce que Ansar, ça veut dire ceux qui viennent secourir, ceux qui défendent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abu Darda, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des Ansar. Il y avait deux grands groupes parmi les Sahaba à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les Muhajirin et les Ansar. Les Muhajirin, c'est ceux qui ont accepté l'islam à Mecca. Et les Ansar, ce sont ceux qui étaient à Médine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concentrez-vous. Comment il s'appelle? Ibrahim. Concentre-toi, Ibrahim, s'il te plaît. Donc, les Muhajirin, c'est ceux qui ont quitté la Mecque avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour aller s'installer à Médine. Et les Ansar sont les habitants de Médine qui ont supporté et défendu le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fait partie des Ansar. Il est de la tribu de Khazraj, donc il est un Khazraji. Et son nom c'est Umayr ibn Zayd ibn Qays. Et d'autres ont dit Umayr ibn Amir. À la kulli hal, son nom c'est Umayr. Abu Darda, son prénom c'est quoi? Non, son prénom c'est Umayr. Umayr. Et voilà. Donc c'était un savant parmi les Sahaba, un homme pieux, très pieux. Et en même temps, c'est quelqu'un qui avait mémorisé tout le Coran à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait mémorisé tout le Coran au complet. Donc Abu Darda faisait partie des Huffaz. Faisait partie de ceux qui ont mémorisé le Coran. Et il s'est converti à quelle époque? Quand est-ce qu'il est devenu musulman, Abu Darda? Abu Darda, il est devenu musulman yani, le jour de Badr, la bataille de Badr à Médine. Vous connaissez la bataille de Badr? Oui, vous l'avez étudié. Donc, il était converti à le jour de la bataille de Badr. Il a participé aussi avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Uhud. Et il a participé à toutes les autres batailles par la suite. Et le jour de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu à quel point il a fait des efforts pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et défendre l'islam contre les mouchriquins. Alors il a dit de lui que c'était un grand cavalier, hein, quelqu'un qui était fort. Et Abu Darda était une personne qui avait énormément de sagesse, énormément de science. Et c'est à cause de ça que Omar ibn al-Khattab, plus tard, hein, quand il est devenu le khalifa, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné Abu Darda pour être un juge dans la ville de Dimashq. Dimashq, c'est la capitale de la Syrie. On a un juge, il est devenu qadi. Ça veut dire que Omar ibn al-Khattab a dit, toi Abu Darda, tu as beaucoup de science, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension de l'islam. Alors, tu as suffisamment de science pour être un juge et pour pouvoir juger les gens quand il y a des disputes, quand il y a des crimes, quand il y a des problèmes. C'est lui, les gens vont aller le voir pour trancher, pour juger entre eux, savoir qui a raison, qui a fait le tort et qui mérite le droit et qui a fait du mal aux autres. Allah, c'est le juge, au jugement dernier, va juger les créations. Mais dans ce bas monde, il y a des juges qui vont juger entre les hommes. Et Allah, dans le Coran, il nous dit, « Fahkum baynahum bima anzar Allah ». Allah, il nous ordonne dans le Coran de juger entre les hommes selon le Coran. Ibrahim, regarde-moi. Ne regarde pas l'autre, regarde-moi seulement. Concentre-toi, d'accord? Barakallahu fik. Donc, juger... C'est pas quand on dit c'est seulement Allah qui juge, oui, c'est vrai, au jugement dernier, il n'y a personne qui va juger excepté Allah. Mais dans ce bas monde, oui, il faut juger. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui fait quelque chose qui n'est pas correct, tu dois juger que cette chose-là, elle n'est pas correcte. Si tu vois quelqu'un qui fait du bien, tu vas juger que cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est bien. D'accord? Non. Donc le juge, là, quand il y a deux personnes, il y a une personne qui a volé l'argent de l'autre personne. Et toi, tu as un problème. Tu veux ton argent. On va dire, une autre personne, il t'a volé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au tribunal et tu vas dire au juge, celui-là, il a volé mon argent. Alors le juge, il va regarder les preuves, il va analyser les choses et puis il va décider c'est qui est-ce qui a raison. Est-ce que c'est la personne qui accuse ou la personne qui est accusée? Et là, il va donner son jugement et il va trancher. Et il va dire, toi, tu as volé l'argent de lui, tu dois lui remettre son argent. Ça, c'est les règles de la justice. Et le juge, c'est ça son rôle, d'établir la justice entre les hommes. D'accord? Donc, il y a des juges dans ce bas monde, mais au jugement dernier, c'est Allah qui va juger au-dessus de tous les hommes. Et son jugement, le jugement d'Allah, c'est un jugement parfait. Un jugement parfait, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'ignorance dedans. Tandis que les juges dans la vie, dans ce bas monde, ils peuvent avoir raison, mais ils peuvent aussi se tromper, parce qu'on est des êtres humains. Et le juge, il juge selon la connaissance qu'il a et selon ce qu'il voit comme preuve. Et il va trancher. D'accord? Laissez les questions pour la fin. D'accord? Donc, Abu Darda était un juge. Et en même temps, il donnait parfois des exhortations aux gens. Il rappelait aux gens et il parlait aux gens parmi les musulmans pour leur rappeler le bien. Hein? Pour leur rappeler le bien et pour leur dire de craindre Allah Azza wa Jal et des choses de ce genre. Et quand on regarde l'exemple des sahaba, et quand on voit leur science, les efforts qu'ils faisaient dans la religion et dans l'apprentissage, hein, et dans la quête de la vérité, et dans le combat pour l'islam et la vérité, on voit que dans ces choses-là, il y a... Laissez les voitures, les jouets, c'est pas le temps maintenant. Comme je dis au début, il y a un temps pour jouer et il y a un temps pour apprendre. Les voitures, les jouets, on va te les donner après, quand on va avoir terminé. C'est bientôt terminé, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Hein? Bientôt, tu vas pouvoir passer à autre chose. Mais juste, essaie d'être patient. Essaie d'être un peu patient, Inch'Allah. Donc, les sahabas sont une école pour nous. Les sahabas sont une école pour nous. Et on doit apprendre de leur exemple. Et de l'exemple qu'ils nous ont laissé, parce que c'est une éducation pour nous. Dans leur comportement, dans leurs actions et dans leurs paroles, il y a des bons exemples pour nous et on doit profiter de ça. Donc, parmi les exemples qu'on peut apprendre de Abu Darda, il y a l'exemple justement du fait qu'ils avaient beaucoup de science et... Il y a un des compagnons qui s'appelle Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab. Hein? Ils étaient très jeunes, mais ils avaient beaucoup de science. Pourquoi? Parce qu'ils apprenaient, ils avaient appris beaucoup du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Omar, il disait à ses compagnons, dites les paroles de ceux qui sont intelligents. Alors, ses compagnons ont dit, mais qui sont les intelligents? Hein, les deux intelligents, ce sont qui les deux intelligents? Il a dit, c'est Mu'adh et Abu Darda. Mu'adh, c'est Mu'adh ibn Jabal, un des plus savants parmi les sahaba, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui savait le plus de ce qui est halal et de ce qui est haram. A'lamu hadhihi al-umma bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal. Et Abu Darda qui était le plus sage. Hein? Et donc, quand on regarde par exemple les propos et les paroles de Abu Darda, on trouve dans ces paroles-là beaucoup de sagesse et beaucoup de leçons très bénéfiques. Et parmi les paroles de Abu Darda, je vais vous en apprendre une. Il disait "Utlubu al-ilm fa in ajaztum fa ahibbu ahlahu." فَإِنْ لَمْ تُحِبُّوهُمْ فَلَا تُبْغِضُوهُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire? Abu Darda, il disait, اُطْلُبُ الْعِلْمِ, cherchez la science. Et si vous n'êtes pas capable de chercher la science, Alors, aimez les hommes de science. Aimez les hommes de science. Et si vous ne les aimez pas, mais au moins ne les détestez pas. Si vous ne les aimez pas, au moins ne les détestez pas. D'accord? Donc ça, c'est le conseil de Abu Darda pour tous les musulmans. Et c'est le meilleur conseil que quelqu'un peut donner. Parce que le conseil d'apprendre, c'est la plus grande importance pour les musulmans. De connaître Allah, de connaître le livre d'Allah, de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, quand on parle de science, si je vous dis le mot science, à quoi vous pensez? La chimie, la technologie. Vous pensez à ça quand vous pensez à la science. Et pourtant, ces sciences-là ne sont pas les plus importantes. Et quand on utilise le terme science, nous les musulmans, en arabe on dit al-ilmu, al-ilm, c'est ça la science. Eh bien, quand on dit le mot science en islam, il s'agit de la connaissance de qui est Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est sa religion. C'est ça la science pour nous les musulmans. Les autres choses qu'on apprend de la dunya, la science comme qu'est-ce que Hamad a dit, la chimie, la technologie, la physique, les mathématiques, ça c'est aussi des sciences, mais c'est des sciences secondaires. C'est moins important. Pourquoi? Parce qu'au jugement dernier, qu'est-ce qui va te sauver du châtiment? C'est la foi, c'est la science de la religion, le tawhid, la sunna, la connaissance de qu'est-ce qui est halal et haram, et le fait de faire les bonnes actions. La connaissance, même si tu as un doctorat ou un gros diplôme en mathématiques, ou en physique, ou en chimie, c'est pas ça qui va te sauver. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bénéfique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important ou intéressant. Oui, les sciences de la dunya, c'est important, c'est intéressant. Mais, la connaissance de la religion est plus importante et plus bénéfique. Parce que c'est ça ce qui va déterminer ton sort dans l'au-delà. Tandis que si tu as un diplôme, mais que tu ne crois pas en Allah, et que tu connais la technologie, et les mathématiques et la science de la dunya, tu ne vas pas être sauvé du châtiment si tu es un mushrik, ou si tu es un kafir, ou si tu fais beaucoup de péchés et tu désobéis à Allah Azza wa Jal. Donc, ça c'est très important. Et Abu Darda, quand il nous parle de la science, il ne nous parle pas de la science de la chimie et de la technologie, il nous parle de la science d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est la plus importante des sciences. Et il n'y a pas quelque chose dans le Coran que Allah nous a augmenté que Allah nous a demandé de demander plus de quelque chose. Il n'y a pas quelque chose que Allah nous ordonne de chercher à en avoir plus, excepté la science. Et il a dit au prophète, Allah Azzawajal dans le Coran, il dit, قُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. قُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dis au Mohammed, oh mon Seigneur, augmente-moi en science. Augmente ma science. Donc, même le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah plus de science, plus de connaissances, alors qu'il est le messager d'Allah. Et que c'est lui qui connaît Allah le mieux. Il n'y a personne parmi les créatures, parmi les hommes qui connaissent mieux Allah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'y a personne parmi les hommes qui connaissent mieux Allah que les messagers et les prophètes. Et parmi les prophètes, le plus savant et le meilleur, c'est Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et il n'y a personne qui connaît mieux Allah que le prophète alayhi salatu wa sallam. Et malgré ça, il demandait plus de science. Donc, si lui demande plus de science, nous aussi, on doit demander encore plus la science. Et c'est ça que les ulama ont dit. لَمْ يَأْمُرُ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَدْعُوهُ بِالِزْدِيَادِ بِشَيْءٍ إِلَّا مِنَ الْعِلْمِ. Yani, Allah Azza wa Jal, il n'a pas ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander quelque chose d'augmenter ou d'en avoir plus, excepté la science. Et Allah, comme j'ai dit au début, Allah Azzawajal, il va élever les gens qui ont la science en degré parmi les croyants. Donc, on est tous musulmans. Qu'on soit des savants ou qu'on soit des musulmans ordinaires, du commun, hein, ou débutants dans la science, on est tous des musulmans. Et Allah, il aime tous les croyants, mais il aime les savants plus. Et toi, est-ce que tu veux faire partie de ceux que Allah aime plus? Alors, à ce moment-là, ça veut dire, fais des efforts pour apprendre la science. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc, ça veut dire que si tu sens en toi-même l'envie d'apprendre l'islam, le désir de vouloir comprendre la religion d'Allah, ça veut dire que Allah, il te veut du bien. Ça veut dire que Allah veut pour toi du bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man yuridillahu bihi khayran, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Celui pour qui Allah ne veut pas du bien, il va se détourner. Il va se détourner de la science. Il va passer toute sa journée sur le téléphone ou le PlayStation. Il va jouer à la PlayStation au lieu de lire le Coran, au lieu d'étudier les hadiths. Puis plus tard, il va dire, hein, mais je ne connais rien de ma religion, mais je sais comment jouer au PlayStation. Mais qu'est-ce qui va te sauver au jugement dernier? Est-ce que c'est la PlayStation qui va te sauver? Ou la science d'Allah et la religion d'Allah? Donc, il faut mettre ta foi dans la balance. Pour savoir si tu es un vrai croyant, mets ta foi dans la balance. C'est quoi la balance? La balance de la science, la balance de la pratique. Tu dis, est-ce que je fais plus d'efforts pour Allah et pour ce que Allah aime, ou je fais plus d'efforts pour mon divertissement et mon amusement et me distraire? Hein? Donc il faut faire des fois il faut faire des sacrifices dans la vie. Dans la vie, il va falloir toujours faire des sacrifices. Ça veut dire quoi? Laisser ce que tu aimes pour faire ce qui est meilleur. Hein? Donc, des fois, le fait de suivre ce qu'on aime, ce n'est pas ce qui est le mieux pour nous. Tu peux manger, par exemple, un gros gâteau ou manger un bon repas avec des fruits, des légumes, hein, des légumes, de la viande, ou manger un gâteau au chocolat. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus et qu'est-ce qui t'attire le plus? C'est de manger le gâteau au chocolat. Hein? T'aimes pas le chocolat? Yani, supposons, peu importe, que ce soit le chocolat ou autre. Oui, bon, des choses que tu aimes, hein, tacos ou quoi. Alors que tu peux manger des choses qui sont meilleures pour la santé. Si tu donnes recours à tes désirs et à tes passions, tu vas manger tout ce que tu aimes sans tenir compte de savoir si c'est bon pour ta santé ou non. Tu dis, moi j'aime le chocolat, je mange ça. Moi j'aime ça, je mange ça, peu importe. Même si ça va me rendre malade, c'est pas grave. Mais tu vas regretter plus tard. Tandis que si tu manges le repas qui est bon pour la santé, et il est bon aussi, mais moins intéressant, mais tu fais le sacrifice, hein, tu fais le sacrifice, eh bien Allah Azzawajal, il va te donner une bonne santé. Hein? Donc ça c'est pourquoi Abu Darda, il nous dit, cherchez la science. Si vous ne pouvez pas apprendre la science et devenir des savants, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les aptitudes de devenir des savants, Allah, il a donné à chacun d'entre nous des particularités, des dons. Il y en a parmi vous, par exemple, vous êtes plus fort dans, par exemple, la force physique. Vous avez plus des forces pour, hein, être capable de soulever des choses ou pousser, hein. Et d'autres que vous êtes moins fort, mais vous avez peut-être une meilleure mémoire. Vous êtes capable de mémoriser rapidement, hein, et d'apprendre rapidement des choses. Donc, Allah il vous a donné à chacun des aptitudes. Il y en a parmi vous, vous allez devenir des médecins. D'autres, peut-être, vous allez devenir des plombiers. D'autres parmi vous, vous allez devenir des électriciens. Chacun, Allah Azzawajal, il vous a donné des dons ou des particularités, des aptitudes différentes. Et il y en a parmi vous, vous allez devenir des savants de l'islam. Inch'Allah, on espère. Peut-être que parmi vous, plus tard, il y en a qui vont être des imams de mosquée. Vous allez enseigner aux gens la religion d'Allah. On ne sait pas, hein? Mais peut-être, Inch'Allah, on espère que Allah nous facilite cette voie, la voie de la science. On espère. Donc, chacun il a ses aptitudes, mais si tu n'es pas un savant, est-ce que ça veut dire que c'est fini pour toi, que tu n'as pas de bien?
Non.
Non, il y a toujours des possibilités de faire le bien. Et si tu n'es pas un savant, on va dire que toi, tu es un architecte. Hein? Tu es un architecte, mais ça ne t'empêche pas d'aimer les hommes de science qui ont la connaissance de la religion. Donc, tu vas être un architecte, mais tu vas aimer les hommes de science et les savants et tu vas les respecter. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith dans lequel il dit « Al-mar'u ma'a man ahab » Au jugement dernier, tu vas être ressuscité avec les gens que tu aimes. Si tu aimes les gens de bien, tu vas être ressuscité avec les gens de bien. Si tu aimes les gens du mal, tu vas être ressuscité avec les gens du mal. Alors fais attention à qui tu aimes. Il y a des gens parfois, il y a des musulmans parfois, ils aiment les gens qui font des péchés. Ça, c'est dangereux. Parce que si tu aimes des gens qui font des péchés, au jugement dernier, tu vas être ressuscité avec ces gens-là. Donc, fais attention à qui tu prends comme exemple, comme modèle. Hein? Je sais que, Haytham, tu es en train de faire un grand sacrifice en ce moment. De patienter, de résister à ce bon burger-là que tu as dans ton sac. Bientôt, tu vas le manger. Le frère Moussa, il est arrivé. Avec les certificats et les diplômes. Donc, il fallait que je vous fasse patienter jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que, sinon, vous n'auriez pas eu votre certificat aujourd'hui. Il fallait aller les chercher. Là, il est revenu avec. Donc là, il va les préparer. Donc, ça, c'est une des paroles de Abu Darda que je voulais vous faire connaître. L'importance de chercher la science. Si vous n'avez pas appris la science, mais au moins vous allez aimer les hommes, les gens qui ont la science et vous allez les respecter. Vous les aimez, pourquoi? Parce qu'ils font du bien pour la communauté. Ils éduquent les gens, ils apprennent aux gens la religion d'Allah, ils apprennent aux gens le Coran, ils apprennent aux gens la Sunna. Ça c'est la meilleure chose. Pourquoi? Parce qu'ils font le travail du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Soyez attentifs. Ne vous laissez pas distraire par les cadeaux, là. Hein? Ça s'en vient, les choses. Donc, pour terminer, c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans le hadith que les prophètes, ils ont laissé aux hommes un héritage. Et c'est quoi cet héritage? C'est la science. Hein? Donc ça veut dire que le prophète Sansmi l'a dit, les prophètes, quand ils laissent quelque chose en héritage, c'est-à-dire quand tu meurs, tu laisses un héritage à tes héritiers. Nous sommes les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inshallah, si on prend la science de lui. Parce qu'il n'a pas laissé comme héritage l'argent et l'or. Il ne nous a pas laissé un héritage de l'argent et de l'or. Il nous a laissé un héritage plus grand et plus important et meilleur que l'or et l'argent. C'est quoi cet héritage? C'est la connaissance de l'islam, la science du Coran et de la Sunna. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. C'est quoi l'héritage qu'il nous a laissé? Hein? C'est quoi l'héritage? Le Coran, la Sunna et la science de la religion. D'accord? Donc vous aviez tous raison. Et donc, si tu veux faire partie des héritiers, des vrais héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu dois faire quoi?
Apprendre le Coran.
Apprendre le Coran, apprendre la sunna, apprendre la science de la religion. Si tu fais ça, tu vas être héritier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu aimerais être un héritier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Donc, une fois, Abdullah ibn Abbas, il est sorti de la mosquée. Il a vu des gens qui étaient réunis devant la mosquée. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites ici, dehors? Alors qu'à l'intérieur de la mosquée, on est en train de distribuer l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, eux, ils ont compris que il y a de l'argent qui est en train d'être distribué dans la mosquée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous couru dans la mosquée pour aller voir l'héritage qui est distribué. Ils pensent qu'il y a de l'argent qui va être distribué, donc ils sont tous rentrés. Hein? Il y en a d'autres qui pensent peut-être qu'il y a beaucoup de nourriture. Hein? Mais quand ils sont rentrés dans la mosquée, ils n'ont pas trouvé d'argent. Ils n'ont pas trouvé de nourriture. Ils sont sortis, ils ont vu Abdullah ibn Abbas, ils ont dit, « Abdullah, tu nous as dit que dans la mosquée, il y a l'héritage du prophète qui est distribué. On est rentré, on n'a pas trouvé d'héritage. On n'a pas trouvé de l'or, on n'a pas trouvé de l'argent. On n'a pas trouvé des choses comme ça. » Alors Abdullah ibn Abbas, il leur a dit, « N'est-ce pas que vous avez entendu la science ?» Ils ont dit, « Oui, c'est vrai. » Il dit, « C'est ça l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science. » Donc, c'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les savants les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on devrait tous essayer de faire partie de ces héritiers. Et si on n'est pas capable d'être parmi les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au moins on doit aimer les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et souhaiter les aider, les supporter, les défendre, faire des doigts pour eux et les aimer pour Allah Azza wa Jalla. Donc c'est avec ça que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et comme j'ai dit, je vous encourage à continuer, à continuer dans votre effort et dans votre quête de la connaissance. Et même si on fait les cours à la mosquée le dimanche, il faut pas, et ça je le dis toujours à Hamad, il ne faut pas penser que l'apprentissage, ça s'arrête seulement à qu'est-ce que vous apprenez le dimanche. Vous devez reviser et apprendre et mémoriser et étudier la religion tous les jours de la semaine. Même quand vous n'êtes pas à la mosquée, même quand vous n'êtes pas à l'école, soyez assidus dans votre apprentissage. Et essayez de vous donner une partie de la journée, tous les jours, un peu de temps pour étudier la religion et apprendre la religion. D'accord? On s'arrête ici, Inch'Allah, que Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde, que Allah Azza wa Jal accepte nos efforts dans le bien, que Allah Azza wa Jal augmente notre science, que Allah Azza wa Jal guide nos enfants et les protège contre tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal dans cette société, dans cette dunya, et qu'il nous donne sa grâce et son pardon et sa miséricorde dans l'au-delà, et que Allah Azza wa Jal nous aide à nous améliorer et à devenir toujours meilleurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.